Les mots de la culture, une émission proposée par Michel Théron.
Bonjour à tous. Eh bien, nous continuons notre réflexion sur la culture générale, basée sur mon ouvrage « Comprendre la culture générale », paru chez Ellipse à Paris il y a un certain nombre d'années, mais toujours disponible en librairie. Alors, où en sommes-nous? Eh bien, nous en sommes au chapitre 11 de cet ouvrage, qui s'appelle « Anthropologie de l'action ». Lors de la dernière émission, nous avons insisté sur l'absence de lien évident, de proportion ou de cohérence entre l'intention présidant à une action et le résultat de cette action. J'avais dit que l'esprit occidental cherchait toujours, nous cherchons toujours un rapport, une symétrie, une proportion entre l'intention justement qui préside à nos actions et leurs résultats. Raison et proportion justement ont la même racine, ratio, proportio, hein, c'est la même racine. Notre rationalisme voudrait qu'il y ait une cohérence, justement, dans le déroulement de l'action et de ses résultats, mais la tragédie dont le modèle est Œdipe roi, par exemple, la tragédie grecque, montre l'absence de ce rapport ou de cette proportion, puisque Œdipe croit bien faire en montant vers Thèbes, alors qu'il aurait mieux fait de rester à Corinthe, où ses parents n'étaient pas ses vrais parents, c'était des parents adoptifs, et Œdipe, alors, en allant vers, va vers son destin, tout en voulant l'éviter. Alors sur cette absence de raison, de proportion dans les choses, bien on peut faire une petite parenthèse à propos justement d'une parenthèse théologique. La réflexion sur Dieu, par exemple, a voulu réduire l'arbitraire de Dieu, ce qu'on a en vue d'une justice de Dieu, affirmer une justice de Dieu, ce qu'on appelle une théodicée. Hein. Bon, le rôle de toute la théologie, qui est un discours rationnel quand même, logos c'est un discours rationnel, alors que mutos c'est le discours irrationnel, hein. Un discours rationnel sur Dieu a été de trouver des raisons à Dieu de façon à ce qu'il y ait proportion entre, par exemple, ce qui nous arrive et finalement ce que nous méritons. L'apôtre Paul pose cette question, hein, est-ce qu'il y a une injustice de la part de Dieu? Et adikia paratoutéou, y a-t-il une injustice de la part de Dieu dans la première épître aux Corinthiens? Eh bien, Paul répond en citant justement le Premier Testament, hein, où Dieu dit « Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai pitié de qui j'ai pitié, l'homme est un vase d'argile entre les mains du potier, et le vase ne peut pas répondre au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi, timé poiesasoutos ?» Donc, finalement, c'est une face, je dirais, en forçant le très absurde ou folle de Dieu, hein, qui subsiste. Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas. C'est ce que dit Juvénal à propos de la femme et autoritaire. Ainsi je le veux, ainsi je l'ordonne, que ma volonté tienne lieu de raison. Et alors, de toute façon, vous savez que le livre de Job tout entier met en question la justice de Dieu, la théodicée, puisque Job est frappé injustement. Je pense aussi à la lettre au père de Kafka, qui est un texte terrifiant, où l'on montre comment le père peut saboter son fils par le côté incompréhensible de ses jugements et de ses condamnations. Hein. Kafka écrit « Ta colère, on sentait bien que ta colère n'était pas dans un juste rapport avec la cause qu'il avait fait naître. Hein. » Vous voyez, le juste rapport, c'est-à-dire la proportion, la symétrie, hein, la raison finalement. Il dit aussi, Kafka écrit aussi « Une fois de plus, dit le fils au père, on n'avait conservé la vie que par l'effet de ta grâce. » Grâce, c'est une notion théologique. Ce père, manifestement, est une figure de Dieu. En effet, tantôt il interdit une chose, tantôt il ne l'interdit pas, il n'y a pas régularité, tantôt il punit très légèrement une faute grave, ou bien inversement, très durement une faute bénigne. Bon, donc ce père est incompréhensible, et ainsi l'âme de l'enfant, qui cherche justement à rationaliser les choses, va être détruite. Dieu est Dieu le père, en quelque sorte, est l'assassin ici de son fils. Hein. Donc, pour reprendre notre idée de tragique, hein, je dirais que la loi du tragique, c'est le fait que les petites causes produisent de grands effets. Il suffit d'un rien pour que la tragédie commence, et ensuite tout s'enchaîne inéluctablement. Voyez par exemple la pièce d'Antigone, ce rien, ça peut être, je cite, « une envie d'honneur un beau matin, comme de quelque chose qui se mange, une fille qui lève les bras dans la rue, etc. Hein. » Alors à partir de là, le karma va se nouer. « Le ressort est bandé, dit le cœur, dans la parabase centrale de la pièce, hein, le commentaire du cœur, « le ressort est bandé, c'est propre, bien huilé depuis toujours, c'est reposant, la tragédie, à la différence du drame qui lui est finalisé. Hein, » cette vision d'Anouilh est assez nihiliste au fond. L'absurde, c'est la vérité, et l'esprit ne peut pas admettre l'absurde. J'avais parlé lors de la dernière émission d'un côté inéluctable, un côté hiératique dans le déroulement de la tragédie. Dit, hein, eh bien c'est exactement ce que dit Anouilh, c'est reposant, c'est propre, bien huilé depuis toujours. Alors, petite cause, grands effets, voilà cette loi tragique. Hein. Giraudoux dit aussi, les nations meurent d'imperceptibles impolitesses. En effet, au départ il peut y avoir un rien, hein. Par exemple, ne pas répondre à une lettre qui nous est adressée. Hein. Eh bien, ça semble anodin, sans importance, mais en réalité, ça peut avoir des conséquences très graves. Tolérer une faute d'orthographe, hein, aussi. Hein. Alors vous allez me dire, oh là là, quelle exagération. Mais non, parce qu'on commence par les fautes d'orthographe et on finit par la barbarie de la déculturation. La négligence fait beaucoup plus de mal à l'âme que la malignité. Un langage négligé, par exemple, est catastrophique. Mal parlé fait du mal à l'âme. Et un langage, je dirais, approximatif, prédit les plus grandes catastrophes. C'est la fin des façons ou bien de ces formes dont Montesquieu nous dit dans l'esprit des lois quelles sont la loi de fonctionnement des sociétés, les formes. S'il n'y a plus les formes, eh bien, qui ont une importance essentielle, on ne sait pas vers quelle catastrophe on peut aller. Hein. Le plus léger, hein, peut avoir un poids extrêmement lourd. Hein. Par exemple, tutoyer quelqu'un, hein, à tout bout de champ. Hein. Je dis souvent, si on te tutoie, on te tue, toi. C'est-à-dire, on ne respecte pas ton intimité, ta personnalité profonde. Hein. La Fontaine, dans une fable qui s'appelle « Le lion et le rat », dit « Une maille rompue emporta tout l'ouvrage ». Vous voyez, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine. La semaine dernière, j'ai cité « L'ours et l'amateur des jardins ». Là, il s'agit du lion et du rat. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?« Une maille rompue emporta tout l'ouvrage ». Ça veut dire que on commence par accepter une petite chose, hein, tutoyer comme ça, bon, et après, du tutoiement à l'incivilité, comme on dit par un doux euphémisme dans nos établissements scolaires, et de l'incivilité à la délinquance, il y a des liens. L'intelligence, c'est le fait de faire des liens, interlégueré, mais on ne l'a plus, justement, cette intelligence, on fait plus de liens, hein. Alors, on va tutoyer des élèves que l'on appelle des gamins, aussi, par un langage totalement inapproprié, et démagogique, hein, et ensuite on se plaint justement de leur fameuse incivilité. Hein. On ne voit pas qu'il y a des liens entre tout cela, hein, entre les événements. Alors le monde tragique, qui naît justement dans une culture qui valorise l'action, comme je l'ai dit la semaine dernière, le monde tragique est un monde purement chaotique, complètement chaotique, puisque tout homme récolte ce qu'il sème avec des résultats insoupçonnés. Tout homme a donc son karma. La plus petite chose peut causer de grandes catastrophes. Par exemple, gratter une allumette en montagne, l'hiver peut déclencher une avalanche. Pascal nous dit bien, à propos du nez de Cléopâtre, « S'il eût été plus court, la face du monde en eût été changée. » En effet, Cléopâtre n'aurait pas séduit César, puis Marc-Antoine, etc. Donc, voilà, on le dit même en proverbe aujourd'hui, c'est un nez de Cléopâtre, c'est-à-dire, bon, finalement, à quoi tient le cours de l'histoire ? Un appendice nasal, hein ? La face du monde en eût été changée. Un humoriste disait aussi, sa face en eût été changée, son visage n'aurait pas été le même. En tout cas, le logos échoue, le logos, c'est-à-dire le langage et la raison, logique, etc., échoue à tout prévoir. Hein. Et alors, les découvertes les plus récentes de la physique, par exemple, nous montrent qu'au sein d'un système complexe où tous les éléments sont interconnectés, il y a une énorme disproportion entre l'infime variation d'un facteur de départ et les effets finalement induits par cette variation. Ainsi, le chaos semble constituer une des règles fondamentales de l'univers. On a abandonné aujourd'hui l'idée chère au scientisme, selon lequel il y aurait dans les phénomènes un déterminisme absolu, que la science parviendrait nécessairement un jour à parfaitement éclaircir. C'était le monde selon Laplace, par exemple, au XIXe siècle. Pendant longtemps, devant des phénomènes complexes, on a pensé qu'on n'avait pas assez de puissance de calcul pour en rendre compte, pour les modéliser, et que c'était seulement une question de moyens techniques. Mais aujourd'hui, on a ces moyens. L'ordinateur, aujourd'hui, avec son énorme puissance de calcul, joue un rôle aussi décisif aujourd'hui qu'en leur temps le télescope en astronomie ou le microscope en biologie. Alors qu'est-ce que l'on voit par conséquent ? On voit qu'il y a des phénomènes constitutivement imprévisibles. Par exemple, les phénomènes météorologiques. Ils résistent à toute mise en équation. Toute prévision, je dis bien à long terme ici, hein, est rendue illusoire, car l'influence de certaines conditions initiales qui peuvent très bien passer inaperçues, comme un orage localisé, une poche d'eau chaude sur la mer, sont capables de modifier de façon très considérable l'évolution de l'atmosphère jusqu'à la bouleverser. Le météorologiste Edward Lorenz vulgarisait cette idée en affirmant, je cite, que le battement d'aile d'un papillon dans la baie de Sydney, en Australie, peut suffire pour déclencher une semaine plus tard un cyclone sur la Jamaïque. Fin de citation. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon, à partir de cette citation. Hein. Bon, alors, on ne peut pas formaliser cela totalement. Les algorithmes que nous utilisons sont insuffisants. Hein. Je dis bien, il s'agit des prévisions à long terme, parce qu'à court terme, aujourd'hui, on arrive à prévoir, parce que à Montpellier, il pleuvra, peut-être pas à Sète, peut-être pas à Béziers, etc., peut-être pas à Nîmes, etc., vous voyez. Hein. Alors moi, je vois ici, là, une frappante correspondance avec la loi qui fonde le déclenchement du tragique. Petite cause, grand effet. Donc, rien n'est stable ou périodique, rien n'est proportionné. Le calcul humain est impuissant à modéliser les choses. Alors, des fluctuations microscopiques sont gonflées par une sorte de progression exponentielle jusqu'à l'échelle macroscopique. Hein. Et plus rien ne se reconnaît à l'arrivée des paramètres de départ du fait d'une constante interconnexion. Pascal disait « Toutes choses sont causées et causantes, aidées et aidantes. » Il y a une interdépendance de toutes choses que d'ailleurs la métaphysique bouddhiste avait déjà prévu il y a bien bien longtemps. Hein. L'interdépendance est une des phénomènes, est une caractéristique essentielle du bouddhisme. Hein. Donc, finalement, on voit que dans chaque situation concrète, le nombre de facteurs pouvant intervenir défie le calcul. Dans le cas d'une interaction constante d'éléments très différents et en très grand nombre, on ne peut rien prédire. Hein. Par exemple, on ne pourra pas prédire le temps qu'il fera dans une semaine, on ne pourra pas prédire l'effet d'une boule de billard qui est frappée à destination d'autres boules. Regardez les paramètres qui interviennent. La pression de l'air, de la l'état de la température, l'état du tapis, de la table, le tonus musculaire du joueur de billard, son état psychologique, etc. Hein. Ce sont des éléments qui jouent tous entre eux, et l'image qui résulte de ces impossibilités de prévision est extrêmement complexe et ne correspond pas à notre besoin de logique qui serait linéaire et simplifiée. Voilà, alors je dirais qu'un hasard essentiel gouverne nos vies. Divin hasard, je ne sais pas comment on peut le caractériser. Je pense au texte de Diderot dans Jacques le Fataliste. Bien sûr, il y a une nécessité dans les choses, une nécessité absolue, mais il n'y a pas de finalité. Alors attention, le hasard n'est pas la contingence. Hein. Dire qu'une chose arrive par hasard, ce n'est pas dire qu'elle arrive sans cause, ce qui serait la contingence. Mais cela veut dire qu'elle arrive, que ses conséquences n'ont aucun rapport avec nous-mêmes, avec nos désirs profonds. Hein. Spinoza le disait bien, aucune chose n'est dite due au hasard, aucune chose n'est dite contingente, sinon en rapport avec l'imperfection de notre connaissance. Hein. Nulla res alia de causa contingens dicitur, nisi respectu defectus nostre cognitionis. Vous voyez, je cite de mémoire, hein. C'est-à-dire aucune chose n'est dite contingente, si ce n'est en rapport avec l'imperfection de notre connaissance. Ça veut dire que chaque chose a une cause, sauf que nous ne les connaissons pas. La contingence n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas, en tout cas, c'est la finalité. Hein. Vous voyez ce que dit encore Spinoza. Les causes finales n'ont de rapport qu'avec notre désir. Hein. Nulla res alia de causa. Il s'agit de la contingence. Hein. Mais il dit causa autem. Voilà, j'ai retrouvé. Causa autem. Thème, quae finalis dicitur, nihil est praeter ipsum humanum appetitum. C'est-à-dire, ce qu'on appelle cause finale n'est rien que le désir lui-même en tant qu'il est mis à l'origine d'une chose. Hein. Donc, nous voudrions justement que les choses correspondent à nos désirs. Mais non. Hein. Mais non, en fait, il y a une absence de finalité. Par exemple, je me promène dans la rue, hein, je sors de chez moi, une tuile tombe du toit hein, et vient m'écraser la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a eu des causes. Hein. Je suis sorti de chez moi pour aller, mettons, acheter une baguette de pain à la boulangerie du coin. Puis, il y avait la tuile. Alors, il y avait un grand vent, hein, une dépression ce jour-là qui fait que la tuile était mal arrimée, elle est tombée, etc. Sauf qu'elle m'est tombée sur la tête et elle aurait très, très bien pu tomber à côté. Donc, il y a eu un enchaînement de causes évidentes, hein, mais il n'y a pas eu de finalité. Donc, le hasard, c'est ça, hein. Nécessité absolue, hein, mais pas de finalité. D'ailleurs, le livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité, unit très bien ces deux notions. Hein. Il y a des causes, hein, toutes choses, je répète la phrase de Pascal, sont aidées et aidantes, causées et causantes, etc. Donc, tout est en interaction et interconnexion, hein, et tout est complexe, comme le dit, par exemple, Edgar Morin dans La méthode, hein, il y a une complexité constitutive des choses, mais quant à trouver un but, une finalité là-dedans, il faut, comme on dit trivialement, se lever de bonne heure. En fait, il n'y en a pas de finalité. C'est pour ça que la politique, par exemple, n'est pas un art de maîtrise ou de souveraineté sur les actions et leurs conséquences, mais un art de navigation. Hein. Gouverner, alors Kubernan, en grec, c'est piloter un bateau. Hein. Donc, Kubernetes, c'est le pilote. Hein. Donc, gouverner, Pierre Mendès France disait, gouverner, c'est choisir. Hein. Donc, effectivement, c'est bien cela, c'est un art de navigation, hein, d'où l'embarras du choix, comme on dit. Hein. Alors, si vous voulez voir des illustrations sur le hasard, il y en a un très grand nombre. Bon, outre le hasard et la nécessité de Jacques Monod ou Jacques le Fataliste de Diderot, vous avez des illustrations, par exemple, au cinéma dans tous les films de Kieslowski hein, sur le hasard. Je pense aussi au film de Claude Sauté, Les choses de la vie, qui est tiré d'un roman L'ironie du sort de Paul Guimard. Hein. Vous voyez, cette notion d'ironie, justement, vient de ce que les choses ne correspondent pas à nos attentes. Hein. Et en fait, ce qui se produit nous donne une impression très grande, je dirais, de gaspillage. Et pourtant, c'est inévitable qu'il y ait du gaspillage. Alors, prenons quelques exemples. Un trait essentiel du tragique, c'est la méprise. Prenons l'exemple de l'accident de chasse. Un chasseur voit remuer un fourré, il tire, il tue son meilleur ami. L'accident est tragique, car l'homme n'a pas voulu cela. Il a cru, comme bien souvent, bien faire, comme l'ours, hein, la fable « L'ours et l'amateur des jardins hein, » de La Fontaine. Bon, il a pensé qu'un gibier était là, et c'est pour ça qu'il a tiré. Bon, mais en fait, son action lui revient comme un choc en retour. Hein, et c'est pour ça que c'est la martia, la faute, c'est précisément la méprise. Prenons un autre exemple tiré de la mythologie antique. L'histoire antique de Pyrame et Thisbé. Ce sont deux amants, hein, et Pyrame vient voir son amante Thisbé, et puis il ne la voit pas. Et il ne voit qu'un lion, et au sol, l'écharpe de Thisbé qui reste à terre. Alors Pyrame en conclut que le lion a dévoré Thisbé, que Thisbé est dans le ventre du lion. Fou de douleur, il se tue. Et puis réapparaît Thisbé, bien vivante, dont Pyrame s'est tué pour une écharpe, hein, comme Othello a tué Desdémone pour un mouchoir, et là aussi il y a eu une erreur, parce que ce mouchoir n'avait pas de signification particulière. Hein. Et le tragique ici montre la vanité du calcul humain, du logos, de la présomption du calcul humain. Pareillement, dans la pièce de Camus, « Le malentendu ». Un jeune homme revient après bien des années d'absence, qui l'ont changé physiquement, dans l'auberge que tiennent sa mère et sa sœur. Pour leur faire une surprise le lendemain, il ne dévoile pas le soir même son identité. Et pendant la nuit, les deux femmes l'assassinent pour le voler. Alors Camus en concluait qu'il ne fallait jamais jouer, qu'il fallait une éthique de la franchise, que le jeune homme aurait dû se faire connaître tout de suite, il n'y aurait pas eu de tragédie. De tragédie, par exemple, si le jeune homme avait dit « Voilà, je suis votre fils et votre frère, donc reconnaissez-moi, etc. » Alors, il n'y a pas de tragédie. Mais non, il a voulu jouer. Et c'est dangereux de vouloir jouer. Hein. Alors, est-ce qu'on peut dire que toutes les tragédies sont évitables? Je crois que ce serait survaloriser l'intellect humain. L'homme est très complexe. Hein. Il y a chez l'homme bien d'autres choses que l'intellect ou que le désir de franchise ou de lucidité. Par exemple, la fierté. Hein. Prenez l'héroïne, par exemple, d'une nouvelle de Maupassant qui s'appelle « La parure ». Cette jeune femme emprunte à sa meilleure amie un collier qu'elle perd au bal. Hein. Voilà. Donc, par fierté, elle n'avoue pas cette perte à son amie et elle va travailler quasiment toute sa vie pour gagner l'argent du collier pour rembourser son amie. Et à la fin, elle est vieillie, sa vie est ratée, mais elle rend fièrement à son ami un collier identique. Et son ami lui dit alors, mais malheureuse, qu'as-tu fait? Ce collier était faux. Vous voyez? Donc la vie de cette femme a été gâchée pour une fierté mal placée, un point d'honneur. Si elle avait dit à son ami, voilà, j'ai été au bal, j'ai perdu ton collier, je le regrette, qu'est-ce qu'on fait? Alors, son ami lui aurait dit, mais il y a rien à faire, le collier était faux. Mais non, par fierté, cette jeune femme a gâché toute sa vie, ne voulant pas avouer la vérité, ce qu'elle avait fait, vous voyez. Hein. Alors, Maeterlinck, dans son livre « La sagesse et la destinée », c'est un grand auteur belge, Maeterlinck, hein, nous dit que le tragique n'existe jamais que parce qu'un sage ne s'est pas trouvé là. Mais est-ce que c'est bien vrai, ça, hein? Est-ce qu'il suffit, justement, de la sagesse, hein, pour, justement, éviter le tragique? La trame de toutes nos vies nous montre bien souvent une grande impression d'ironie, de gaspillage. Ironie et gaspillage tiennent bien souvent à la disproportion ou à l'incommensurabilité, hein, entre les intentions de nos actes et leurs résultats, entre ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, entre notre valeur et le lot qui nous est alloué dans notre vie, etc. Il y a des cas où l'impression de gaspillage est totalement hors de mesure, et plus grande est la disproportion, plus grande est l'impression de gaspillage et de tragique. Par exemple, prenons trois exemples. Un mauvais alpiniste se tue en escaladant une haute montagne. Exemple numéro 2. Un excellent alpiniste se tue en escaladant une haute montagne. Exemple numéro 3. Un excellent alpiniste se tue en escaladant une petite montagne. Alors, auquel de ces deux exemples donnerez-vous le meilleur coefficient de tragique? Eh bien, c'est plutôt au troisième, parce que le mauvais alpiniste, il n'avait qu'à ne pas tenter l'ascension d'une haute montagne. L'excellent alpiniste qui se tue en escaladant la haute montagne, ma foi, on pourrait dire, c'est les risques du métier, hein. Bon, il savait ce qu'il risquait. Mais l'excellent alpiniste qui se tue en escaladant une toute petite montagne, alors là, c'est ce qu'il y a de plus tragique. Parce que l'accident est, comme l'on dit, stupide, hein. Un accident stupide est plus tragique qu'un accident qui fait partie des risques du métier. Il y a un proverbe chinois qui dit, ce sont les meilleurs nageurs qui se noient. Vous voyez, ou bien un autre proverbe dit « il pleut toujours dans les flaques d'eau hein ». D'où l'impression qu'il y a un rire du destin qui est plus profond que toutes nos présomptions intellectuelles. Nous jouons et le destin nous déjoue. Je pense par exemple à la pièce de Jacques Deval dans « Ce soir à Saint-Marcande ». Il raconte dans cette pièce l'histoire d'un vizir qui voit en rêve la mort qui vient le chercher. Alors le vizir demande au calife la permission de s'en aller loin à Samarcande pour fuir la mort. Alors le vizir obtient cette permission et au sortir du palais du calife, il rencontre une vieille femme squelettique qui est étonnée en le voyant, qui a un haut le corps en le voyant. Et cette femme, c'est la mort. Alors la mort dit au vizir, « Je suis surprise de te voir ici, car je t'attends ce soir à Samarcande. » Vous voyez, donc on ne peut pas éviter son destin. Par exemple, dans vous avez des paroles à double sens qui se vérifient toujours dans les oracles. On avait fait à Échille, la Pythie de Delphes avait fait à Échille une prédiction. Elle lui avait dit « la mort te viendra sous le toit d'une maison ». Alors Échille, à partir de là, pour ne pas réaliser la prévision de la Pythie, dormait toujours à la Belle Étoile, dehors, hors des maisons, jusqu'au jour où il mourut la tête écrasée par une tortue, lâchée du haut du ciel par un aigle, un gypaète barbu. Et ce fait est tout à fait possible selon les ornithologues. En effet, le gypaète peut lâcher sa proie, justement, sur le sol, d'en haut, pour qu'elle se détruise au contact des rochers, qu'elle se casse, hein. Donc, Échille est bien mort, la mort lui est venue sous le toit d'une maison. Alors, voyez aussi la forêt de Lusignan de Macbeth, hein. Macbeth se demande s'il sera roi longtemps. Alors, on lui répond, tant que la forêt restera en place, tu seras roi. Macbeth est très content, parce qu'il se dit, c'est pas demain la veille que la forêt va se déplacer. Eh bien, l'armée ennemie qui va venir détrôner Macbeth s'avance, camouflée derrière des branchages qui donnent l'impression que la forêt se met à marcher. Donc, on ne peut jamais éviter le destin si on sait bien comprendre les prédictions qu'il nous donne. Dans la guerre de Troie n'aura pas lieu de Giraudoux, il est question de, on dit ça sera la dernière guerre, alors on comprend la dernière au sens absolu, mais s'il s'agit au sens relatif, la dernière avant la prochaine, vous voyez, donc là il y a une ambiguïté du langage qui reflète l'ambiguïté du phénomène. Donc le logos humain veut tout rationaliser, les paroles à double sens sont les échecs de cette volonté, et le logos contient, vous le voyez, ses propres fissures, hein, et la grandeur, l'intelligence des cultures, dont la culture occidentale, c'est d'avoir vu ce phénomène fréquent. Voilà, eh bien je vais vous laisser maintenant, nous continuerons cette réflexion sur le pantragisme et le tragique historique aussi, lors de la prochaine émission. Passez une bonne semaine, rendez-vous à la prochaine émission.
Retrouvez Michel Théron sur son blog www.michel-théron.fr.